Le journal avec Yann Esler, bonjour.
Bonjour, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo débute dans moins d'une heure. L'occasion de revenir sur ces JO hors du commun dans ce journal. Une eau un peu trouble mais rafraîchissante. Depuis hier, il est à nouveau possible de se baigner dans le lac de Neuchâtel. Reportage à Saint-Blaise. La ville de Bienne a procédé à l'expulsion de gens du voyage qui occupaient un terrain au sud de la Tissot Arena depuis le mois de juin. Un premier délai pour partir avait été fixé à la fin du mois passé, délai qui n'a pas été respecté. Et cet après-midi, la journée sera toujours belle et estivale. Malgré quelques passages nuageux, les températures grimperont à 30 degrés au maximum. Jour J à Tokyo, les Jeux Olympiques commencent officiellement aujourd'hui avec la cérémonie d'ouverture qui commencera à 13h heure suisse. C'est la deuxième fois que la capitale japonaise accueille le plus grand événement sportif du monde après 1964. Cette édition était initialement prévue l'année passée avant d'être reportée à cause de la pandémie de coronavirus. Le Covid-19 qui oblige tous les participants à respecter des mesures sanitaires draconiennes et qui a contraint les organisateurs à imposer un huis clos. Notre envoyé spécial au Japon, Emily Momentaler, revient sur le parcours tumultueux de ces JO de Tokyo.
Ces Jeux Olympiques attribués en 2013 à Tokyo devaient être les Jeux de la reconstruction. Le pays se remettait alors à peine de la triple catastrophe de mars 2011 à Fukushima qui avait fait plus de 18 000 morts. Depuis, ces JO ont été surnommés les Jeux les plus chauds de l'histoire, les plus chers ou encore ceux de la pandémie. À l'été 2019, la chaleur et l'humidité de la capitale nippone mettent des athlètes au supplice lors d'épreuves test. Le CIO force alors le transfert du marathon et des épreuves de marche à Sapporo, au nord du pays. Puis arrive la pandémie de Covid-19 et le 24 mars, l'annonce du report d'une année tombe, une première en temps de paix. Cumulé aux mesures antivirus, cela entraîne un surcoût de 2,3 milliards d'euros, portant le budget officiel à 13 milliards. Une année plus tard, c'est un scandale sexiste qui touche le comité d'organisation. Son président, Yoshiro Mori, démissionne suite à ses propos. L'interdiction du public étranger est-elle décrétée en mai dernier, alors que le huis clos est prononcé le 8 juillet ? Une décision, là aussi historique, qui résulte de l'état d'urgence prolongé jusqu'au 22 août à Tokyo, en raison de la recrudescence des cas, et qui doit répondre aux préoccupations de la population, qui reste majoritairement opposée à la tenue des joutes. Quasiment pas de spectateurs, pas de festivités, ni d'acclamations et d'accolades. Des mesures sanitaires drastiques. Ces JO s'annoncent donc très différents des autres.
Et ces Jeux Olympiques vont voir plus de 11 000 athlètes en provenance de 206 pays qui vont concourir lors des 339 épreuves au programme donc de la compétition qui se tient jusqu'au 8 août. Et alors qu'elle aurait dû se tenir il y a une année jour pour jour, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 va donc donner le coup d'envoi de ces joutes aujourd'hui. Elle n'aura pas le même visage que ce qui était prévu avant l'émergence de la pandémie. Elle sera plus simple, plus sobre selon les organisateurs. Et seules quelques centaines d'officiels garniront les tribunes du stade olympique dont la capacité est de 68 000 spectateurs. Les athlètes présents lors du traditionnel défilé seront aussi moins nombreux, à l'image de la délégation suisse qui ne sera représentée que par une vingtaine de sportifs sur 116. Cela s'explique par les différentes mesures sanitaires autour des JO et la crainte de contamination, mais pas seulement. Une cérémonie d'ouverture n'est pas forcément une préparation idéale avant un grand rendez-vous. C'est ce que nous explique Louis Ayer, entraîneur en chef des courses de la Fédération d'athlétisme suisse.
C'est clair, quand on voit les images du défilé des athlètes à la cérémonie d'ouverture, c'est vraiment le grand moment de la cérémonie, avec quand la torche s'allume, bien entendu. Mais aussi, ce qu'on ne voit pas à la télévision, c'est quelle est la logistique pour ce défilé des athlètes. Et en fait, souvent, les athlètes doivent partir peut-être 6 à 7 heures avant le défilé pour se rendre déjà au stade, doivent attendre des heures et des heures, parfois à l'extérieur, parfois dans des catacombes, parfois il fait chaud, parfois il fait froid, parfois il pleut. Il y a énormément d'attentes. Le défilé, ça dure peut-être 2 heures, 2 heures et demie. Et donc, une fois que les premières nations démarrent, c'est très rythmé aussi pour la télévision, évidemment. Et donc, il faut qu'il n'y ait aucun à-coup. Donc, tout le monde doit se lever au même moment et attendre. Et ensuite, une fois que le défilé est terminé, il faut attendre de nouveau pour pouvoir remonter dans des bus. Et c'est des milliers de personnes, donc il y a beaucoup de bouchons, d'attentes. Ensuite, il faut être ramené au village olympique ou alors dans le camp de base. Et donc, ça prend, je sais pas, peut-être 12, 14 heures avec beaucoup d'attentes debout. Et c'est évidemment pas une chose qui est profitable pour la compétition. Et donc, il faut se rendre compte que c'est des athlètes qui ont préparé ça maintenant depuis 4 ou 5 ans. Même si la dimension émotionnelle est évidemment très forte et la symbolique aussi. Mais c'est pas, d'un point de vue purement de la performance, c'est pas ce qui est souhaitable.
Propos recueillis par notre envoyé spécial dans la capitale japonaise, Emily Mumenthaler. Cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo commence donc à 13h, heure suisse. La délégation suisse sera emmenée par deux porte-drapeaux, la sprinteuse bernoise Mujinga Kambuji et l'escrimeur balois Max Heinzer. A noter que le directeur artistique de cette cérémonie, Kentaro Kobayashi, a été démis de ses fonctions hier par le comité d'organisation en raison d'une blague faite à propos de l'Holocauste remontant à plusieurs années. Et on va dire le coup de tonnerre ce matin, c'est que Karim Hussein ne prendra pas part aux Jeux Olympiques. Le champion d'Europe 2014 du 400 mètres et a été suspendu 9 mois après avoir été testé positif à une substance interdite. Alors Damien Piscopiello, comment en est-on arrivé là ?
Eh bien Yann, c'est très simple, cette sanction survient à peine 1 mois après que le Turgovien ait été testé positif à la nicétamide, un stimulant interdit en compétition lors des championnats suisses à Langenthal. Selon Karim Hussein, c'est un complément alimentaire ingéré juste avant la finale qui serait à l'origine de sa suspension. Le coureur helvétique avait déposé un recours contre sa suspension provisoire où il expliquait qu'il pensait que ce stimulant était également autorisé en compétition, mais son appel a été repoussé.
Alors Damien, on a été les premiers surpris, mais aussi avec cette chape de plomb qui vient de s'abattre sur sa tête, quelle a été la réaction de Karim Hussein ?
Eh bien Yann, le champion d'Europe 2014 du 400 mètres a annoncé ce matin qu'il acceptait sa sanction et regrettait son erreur. Une attitude louée et respectée par Suisse Olympique qui a avoué être, je cite, « secoué par cet incident ». L'organisation olympique a également rappelé aux athlètes que la prudence n'était jamais trop grande lorsqu'il s'agit de compléments alimentaires. La suspension de Karim Hussein est effective à compter du 16 juillet, mais elle ne signifiera pas la fin de la carrière du Tugrovien. Il a en effet annoncé qu'il souhaitait continuer à concourir.
Merci Damien pour ces précisions. On revient sur ces Jeux Olympiques tout à l'heure dans le journal des Jeux. Renouer avec le plaisir de la baignade. Depuis hier, il est à nouveau permis de piquer une tête dans le lac de Neuchâtel. L'analyse microbiologique des eaux réalisée sur quelques plages a permis de lever l'interdiction de la baignade qui prévalait depuis les inondations. Les nageurs doivent toutefois rester prudents sur certaines rives qui peuvent rester dangereuses. Mais ce matin à Saint-Blaise, le plaisir était au rendez-vous. Reportage.
Pascal, j'ai recommencé hier, c'est absolument magnifique, le lac est assez frais, il est un peu plus troublé que d'habitude je dirais, voilà. Mais sinon la fraîcheur fait que bon, le plaisir est là de nager à nouveau.
C'est un peu plus difficile de savoir si on marche effectivement sur un morceau de bois, sur quelque chose, un débris quelconque.
Les débris sont un petit peu rassemblés près des ports plutôt, et ici vers Saint-Blaise, l'eau est relativement, elle est trouble comme je l'ai dit, mais il n'y a pas tellement d'obstacles ou de bois ou ce genre de choses, donc c'est relativement facile de nager, c'est assez fluide.
Et ça vous avez manqué ces quelques jours sans baignade?
Alors vraiment oui, parce qu'avec la chaleur et tout, le petit bain du matin, c'est quand même assez indispensable.
Andrew.
Vous vous réjouissez d'y retourner ?
Certainement, oui. J'aime baigner là, tous les matins, la fraîcheur du lac, ça fait du bien. Certainement, l'été, c'est un peu frustrant, mais quand même, c'est compréhensible. Donc, je suis très content qu'à nouveau, on peut se baigner.
Mais c'était un petit peu difficile ces quelques jours sans baignade ?
Oui, je suis content. Ils ont levé l'interdiction assez vite parce que c'est clair, le niveau est toujours très haut. Mais non, je suis très content.
Oui, on perd un petit peu ses repères là. La plage de Cailloux, on la voit à peine.
Il n'y a plus ces repères de bord de plage et ça descend très très rapidement. Donc on est vite dans l'effort et puis il faut faire attention quand même parce que ça peut être dangereux pour des gens qui sont peut-être moins expérimentés ou autres. Donc faire attention, ça descend très vite.
Comment c'était cette baignade ?
C'est magnifique, l'eau est très bon, un peu rafraîchissante, mais presque chaude. C'est calme comme ça, non, c'est parfait, non, c'est comme je l'aime.
Et la qualité de l'eau, vous l'avez trouvée belle aussi ?
C'est un peu trouble, mais non, la qualité est bonne, oui.
Et on vous a vu aller assez loin, hein, au large.
J'ai fait un bon boucle, l'eau, un bon 15-20 minutes de baignade. Non, ça fait beaucoup de bien, c'est pour tout par le temps, c'est rafraîchissant, ouais, c'est un bon exercice. Non, j'aime bien cette saison, ouais, je suis content, on peut baigner à nouveau.
Et si la baignade est à nouveau autorisée, il faut toutefois rester prudent dans les zones arborisées. Quant à la navigation, elle reste interdite sur le lac de Neuchâtel. Elle débarque à Neuchâtel après Paris, Zurich ou Genève. Les trottinettes électriques se multiplient dans le canton. Limitées à 20 km/h et aux pistes cyclables, elles font partie de la catégorie des cyclomoteurs légers, comme les vélos électriques lents. Cela signifie que tout le monde n'a pas si facilement accès à ces engins. Mike Cortez, responsable de la communication du service cantonal des automobiles et de la navigation du canton de Neuchâtel, nous précise cela.
Pour conduire une trottinette électrique, c'est minimum 14 ans, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 14 et 16 ans, l'utilisateur doit être en possession de la catégorie M, c'est-à-dire qu'il doit avoir passé au préalable un examen théorique. Par contre, au-delà de 16 ans, il n'y a plus besoin de permis de conduire spécifique, c'est-à-dire que n'importe qui peut utiliser une trottinette électrique, maximum 20 km/h et 500 watts.
Pourquoi est-ce qu'après 16 ans, on serait considéré comme moins à risque de faire un accident ?
Peut-être simplement parce qu'entre 14 et 16 ans, on a une moins bonne appréciation de la circulation. Et puis dès 16 ans, on aura peut-être déjà eu l'occasion d'être sur la route avec un vélo, avec d'autres choses. Donc on a une appréciation qui est différente de la circulation.
Mike Cortez, responsable de la communication du scan, était au téléphone de Siméon Calame. Près de 150 gens du voyage ont été expulsés mardi d'un terrain au sud de la Tissot Arena à Bienne. Les autorités municipales leur avaient demandé de quitter le terrain jusqu'au 30 juin, ce qui n'a pas été respecté. S'en est suivie une longue procédure qui a vu l'intervention de la police. Procédure détaillée dans un communiqué publié ce matin. Le terrain a finalement été libéré. La ville de Bienne a tenu à expliquer sa démarche en détail. Une communication importante selon le conseiller municipal Beat Führer.
On veut une fois montrer comment ça se déroule. C'est une manière de procéder normale. Alors ça, c'est la voie juridique qu'il faut prendre. Ça prend du temps et je crois que c'est très intéressant de le démontrer une fois comment ça se passe, combien de temps ça prend, parce que souvent, dans la population, on a l'impression, moi j'aurais aussi d'ailleurs, qu'il faut juste dire aux gens de voyage, écoutez, quittez, et puis dire à la police, il faut les faire quitter, puis le lendemain, c'est fait. Mais ça prend du temps, ça prend quelques pas à prendre jusqu'à ce qu'on arrive au bout. On n'a pas vraiment mené une discussion, on a dès le début fait clair, on a essayé de faire comprendre qu'on veut qu'ils quittent le terrain et puis il n'y avait pas d'autres discussions à mener. Et puis ils se mettaient toujours sur leur position qu'ils veulent rester, même jusqu'au milieu du mois d'août. Mais il faut être clair, ils savent que toutes ces procédures prennent du temps et puis qu'ils peuvent attendre un moment jusqu'à ce qu'ils doivent effectivement quitter.
Et vous retrouverez plus d'informations sur notre site internet. Et avant de passer de nouveau aux Jeux Olympiques, un petit mot de sport. Neuchâtel-Xamax FCS prend son mal en patience. Le club de football se rend cet après-midi à Chafouz pour y disputer un nouveau match amical. On le rappelle que le match du début de Challenge League face à Arro a été reporté en raison des crues du lac qui ont inondé le parking de la Maladière.
12h28 sur RTN.
Le journal des Jeux Olympiques de Tokyo.
Et Nina Betschart et Tania Huberli sont quasiment assurées de disputer la phase d'élimination directe des Jeux de Tokyo. La paire helvétique de beach volley profite du retrait du duo tchèque Barbora Ermanova-Marketa Tslukova, testée positive au Covid-19 aujourd'hui. Les deux Tchèques sont donc obligés de renoncer et perdent tous leurs matchs par forfait. Nina Betschart et Tania Huberli ont donc besoin d'une victoire pour passer les poules. La paire suisse entrera en lice demain face à l'Allemagne. Du côté du badminton, la poisse ne lâche pas Sabrina Jacquet. La badiste chaudfonnière annonce c'est ce matin qu'elle souffrait d'un mollet. Sa participation au tournoi olympique n'est pas remise en cause. Pour commencer sa dernière compétition internationale, Sabrina Jacquet affrontera demain la numéro 1 mondiale, la taïwanaise Tai Tzu Ying, à 6h heure suisse. Enfin, le président français Emmanuel Macron est arrivé ce matin à Tokyo. Il assistera à la cérémonie d'ouverture des Jeux. Sa présence s'explique notamment par la tenue des JO 2024 à Paris. Emmanuel Macron a affirmé que la France était déjà à pied d'œuvre pour préparer ses futures Olympiades d'été.
Le journal des Jeux Olympiques de Tokyo.
Retour de la musique avec Imagine Dragons. Et Birds sur RTN. On jette un œil à la météo et à la météo des plages. Un œil donc aux températures pour cet après-midi, il fait 29 degrés à Neuchâtel et Payerne, 30 à Yverdon, 28 à Fleury et Dombresson, 27 au Locle et à La Chaux-de-Fonds. Demain, nuageux le matin, mais le soleil reviendra rapidement avant de repartir en milieu d'après-midi pour laisser la place à un ciel plus menaçant, avec des orages possibles en fin de journée. Dimanche, météo assez variable le matin, le soleil sera ensuite de plus en plus généreux et à nouveau des risques d'orages en fin de journée. Lundi et mardi, conditions très variables avec un ciel souvent assez nuageux et des zones d'averse parfois accompagnées de coups de tonnerre.